おかしいおかしい
Bonsoir. Dernier jour, ce lundi 15 octobre, de l'ultimatum lancé à Laurent Kunda pour le brassage de ses troupes. Quel est l'objet de la présence sur place à Goma du président Joseph Kabila et des diplomates de certains pays occidentaux et de l'Afrique du Sud? Comment concilier les différentes prises de position pour restaurer la paix au Nord Kivu? C'est le sujet au centre de cette émission au Dialogue en Congolais. Quelques-unes de réactions des auditeurs, certains comme Jean-Claude Kassai de Kiwanja dans le Nord Kivu et Blaise de Bukavu veulent savoir ce que va faire le gouvernement si Laurent Kunda refuse d'aller au brassage. Héritier Koyalité à Badolité dans la province de l'Équateur pense que le chef de l'État ne doit pas négocier avec Laurent Kunda. Il faut, dit-il, le faire arrêter et juger à la Cour pénale internationale. Quant à Vianney d'Uvira au sud Kivu, le président Joseph Kabila doit privilégier la négociation avec les FARDC car, je cite, les FARDC ne sauront pas mettre fin aux activités des groupes armés de l'Est. Nous recevons dans cette émission Moïse Nyarugabo, il est sénateur RCD, Madame Muhima Bintou Sabine, députée nationale élue de Walikale au Nord Kivu, elle est de l'AMP, et l'analyste de ce soir s'appelle François Elika, assistant à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Dernier jour de l'ultimatum lancé à Laurent Kunda pour le brassage de ses troupes, c'est aujourd'hui, 15 octobre, à minuit. Quel est l'objet de la présence sur place du président Kabila et des diplomates des pays tels que la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, le chargé d'affaires des États-Unis et d'Amérique, ainsi que l'ambassadeur d'Afrique du Sud? Explication dans cet élément que nous proposent Guy Roger Nampala et Claude Kienza. Bonsoir Claude Kienza.
Bonsoir Guy Roger Nampala.
Dites-nous Claude, l'arrivée du président Kabila était-il annoncée à Goma?
Nous disons que cette visite n'a pas été annoncée par les officiels ni par la presse du gouvernorat. C'est hier dimanche dans l'après-midi seulement que nous avons appris la présence du chef de l'État au chef-lieu du Nord Kivu. Dans cette visite surprise, le président Kabila est accompagné de plusieurs ministres et de représentants du commandement des FARDC. Cela à quelques heures de l'ultimatum lancé par le gouvernement aux troupes de Kunda pour rejoindre le processus du brassage.
Quelles sont les différentes personnalités de la province que le président Kabila a rencontrées dès son arrivée à Goma?
Après son arrivée à Goma en début de la journée, hier dimanche, le président Joseph Kabila a entamé une série de concertations avec différents responsables des institutions publiques de la province. Selon les sources du protocole d'État du gouvernorat de province du Nord Kivu, le président de la République a rencontré les membres du Conseil provincial de sécurité, de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial, mais aussi le commandement des FARDC. Jusque-là, rien n'a encore filtré de ces entretiens.
Quelle est, Claude, la situation actuelle sur place à Goma et ses environs à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum lancé contre Laurent Kunda?
Pendant que le président de la République est dans sa troisième visite au Nord Kivu, la calmie relative observée depuis près de 4 jours sur les terrains des affrontements à Masisi et à Rutshuru notamment vient d'être remise en question par des affrontements ce lundi vers 12h au niveau de Kalingera entre la 6e brigade intégrée et les insurgés fidèles à Laurent Kunda. À Goma, par contre, l'ambiance est normale. Les activités se poursuivent comme à l'accoutumée.
Quel est l'impact de la visite de Joseph Kabila au niveau de la population et des troupes des FARDC?
Écoutez Guy Roger Nampala, selon les différentes réactions que nous avons recueillies, la majorité de la population de Goma voudrait que le chef de l'État prenne une décision une fois pour toutes pour mettre fin aux activités de Kunda dans la région, en utilisant notamment la force. Nous pouvons pour l'instant vous donner l'impact au niveau des troupes.
Merci Claude Kienza.
Merci Guy Roger Nampala.
Alors, Madame Muhima Bintou Sabine, députée nationale, vous êtes de l'AMP, élue de Walikale au Nord Kivu. Vous pensez, vous, comme cet auditeur Henri Mbuyamba de Kananga, qui pense que le déplacement du président Joseph Kabila était un signal fort pour les Congolais?
Oui, je peux le dire ainsi, parce que en sa qualité de garant de la paix, l'intégrité et la sécurité du territoire, le chef de l'État devait aller s'assurer de l'avenir du processus de la pacification à l'est du pays. Il est là aussi comme père, hein, un père qui va visiter sa famille qui est en détresse. Il est là pour se rendre compte personnellement de l'évolution de la situation, tant sur le plan militaire que sur le plan humanitaire. Parce que dans sa suite, nous avons le ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires humanitaires. C'est que autour de tout ça, le chef de l'État devait être la brosse en tant que père, comme je l'ai dit, de famille. Mmh. Il est allé combattre avec la population qui fait face à beaucoup d'atrocités.
Ouais. Mais il n'est pas allé seulement avec des ministres, il y a aussi les diplomates, on l'a dit, hein, les ambassadeurs de France, Belgique, Grande-Bretagne, chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, et l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Vous pensez que cela a un effet sur la situation sur terrain en ce dernier jour de l'ultimatum?
Justement, comme je l'ai dit, pour les chefs de l'État, eux aussi sont là pour voir l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain. Parce que, à voir comment les choses avancent, il y avait déjà une petite accalmie, mais malheureusement, la guerre a arrêté. C'est que, pour les chefs de l'État, sa présence est nécessaire, ça s'avère nécessaire là-bas, parce que, ici, nous devons souligner la gravité des faits. Et le fait que le chef de l'État voudrait aussi soutenir cette détermination des troupes de FARDC au fond, hein, pour établir la légalité et sauvegarder la souveraineté nationale. Donc, sa présence à Goma est très, 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 très réconfortante.
Donc, pour vous, c'est pour une solution militaire?
Bon, comme je l'ai dit, hein, il y a négociation ou solution militaire. Hein, toutes ces décisions sont à concilier.
Sénateur Moïse Nyarugabo, quelle lecture vous faites de la présence du président Kabila et de ses ambassadeurs diplomates occidentaux et celui de l'Afrique du Sud?
Non, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce séjour du président de la République, mais je considère qu'il est son droit de se retrouver dans n'importe quelle ville de la République, dans n'importe quelle province. Que ce soit à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi ou ailleurs, c'est son droit de faire son travail parce que il est le président de la République.
Mais en ce jour,
dire que c'est un signal fort, je dis oui, c'est un signal fort, mais tout dépend des résultats. Et ce sont les résultats qui comptent. Et si, que ce soit par les négociations ou par le dialogue, que ce soit par la voie militaire, c'est les résultats qui comptent à mon avis, et c'est cette force va s'apprécier en fonction de cela.
Quel est le résultat, selon vous, que les Congolais souhaiteraient avoir?
Je pense que les avis sont partagés. Il y en a qui estiment qu'il faut absolument arrêter Laurent Kunda, le faire arrêter, le mettre en prison, le faire juger par le tribunal, la Cour pénale internationale. J'ai suivi
des
auditeurs qui ont dit ça. Et si j'ai bien compris, il y a même quelqu'un qui a dit que même la population de Goma voudrait que le président prenne la décision une fois pour toutes et qu'il puisse mettre fin aux activités de Laurent Kunda et ses troupes une fois pour toutes par voie militaire. Donc, vous comprenez que les avis sont partagés. Mais moi, mon avis, c'est celui-là que je vais donner. Je considère que c'est une erreur. Ce n'est pas le moment de faire la guerre. Après les élections, le président de la République a été élu. Et aujourd'hui, ordonner la guerre, alors que des questions qui se posent, je ne suis pas convaincu qu'il est impossible de trouver des solutions par voie de dialogue, et par voie politique. Je pense que ce n'est pas bon. C'est une guerre qui est inutile, qui est inopportune. Il était possible de trouver encore des solutions par des voies politiques et par dialogue. Donc moi, je suis convaincu que c'était encore possible. Mais c'est une question de foi, c'est une question d'option. Et c'est le gouvernement qui choisit, qui décide, qui lève l'option.
Oui. Bon, Moïse Nyarugabo, sénateur, on va y arriver au niveau des solutions à préconiser pour restaurer la paix. Mais un mot sur la présence du président de la République, mais aussi des diplomates. Je vous l'ai dit, vous avez l'ambassadeur de la France, de la Belgique, Grande-Bretagne, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Quand vous apprenez qu'ils sont là à Goma en ce dernier jour de l'ultimatum, vous pensez que leur présence peut avoir un effet sur cette situation sécuritaire?
Je m'empêche de spéculer dès lors que je ne connais pas exactement quel est l'objet de leur mission. Pour le président de la République, je peux encore me dire que c'est parce que l'ultimatum qu'il a donné expire aujourd'hui à minuit, et donc il est là pour éventuellement lancer les attaques contre les troupes de Laurent Kunda comme l'ultimatum aura expiré. Mais pour la présence des diplomates, je pense qu'ils sont là, soit pour encourager le président de la République à faire la guerre contre Laurent Kunda, soit pour l'en dissuader, pour lui demander peut-être de privilégier encore les voies politiques, le dialogue. Donc, comme je ne sais pas exactement c'est pour quelle raison, mais c'est pour une raison ou pour une autre. C'est pour l'une des deux. Je ne sais pas laquelle. Mais ça ne peut être que soit l'encourager de faire la guerre et d'éventuellement faire de sorte que les par de ces marches sur le rencontre de ses troupes les écrase, qu'on en finisse une fois pour toutes, soit alors pour lui demander de donner encore la chance au dialogue et peut-être éviter la guerre et toutes ses conséquences dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma et dans les environs.
Votre appréciation, François Elika, vous qui êtes analyste politique?
Il faut rappeler que le président de la République, lors de l'avant-dernier voyage, avait déjà levé publiquement l'option militaire. Hein, il faut le préciser, et que cette option militaire a été tout de suite mal vue, mal appréciée par les différentes instances internationales. On a la Belgique qui a d'ailleurs proposé que l'on mette en place un facilitateur dans le cadre de pouvoir prendre en charge le processus de négociation et donc de privilégier les voies pacifiques. Alors à cet égard, il est important de préciser que si le président de la République doit aller à l'Est pour lancer les opérations militaires à la suite de l'expiration, bon, je me dis très sincèrement que la présence des diplomates serait inappropriée parce que je ne vois pas des diplomates, des ambassadeurs d'un pays pouvoir être présents avec un président de la République pour l'encourager à lancer les opérations militaires, d'autant plus qu'ils étaient déjà opposés à cette démarche.
Donc je me dis
qu'il s'agit, ce voyage fait partie, c'est vrai, il faut se rendre compte de la situation humanitaire sur terrain, aussi se rendre compte de la situation sécuritaire, mais l'objectif par rapport à la présence des diplomates, d'abord il faut dire que ce sont des pays qui influent stratégiquement sur le destin de la République démocratique du Congo, qui ont investi énormément d'argent et qui voudraient bien voir le processus n'est pas dérapé du fait du recours à une solution militaire. Alors, ces pays vont certainement faire pression, ont même déjà commencé à faire pression sur Joseph Kabila pour qu'il renonce à la voie militaire. Bon, mais entre-temps, sur terrain, il faut aussi reconnaître que il s'est exprimé ou il s'est formalisé une sorte de sentiment pouvant encourager les opérations militaires à la suite des récentes prestations quasi positive de
FARDC.
Alors, le problème est à ce niveau-là. Bon, il est question d'apprécier les conséquences de chacune d'options, mais il est important de savoir que si nous reconnaissons que la négociation est encore possible et que la guerre est inopportune, il faut aussi reconnaître que les revendications présentées par Laurent Kunda seraient aussi inopportunes, de sorte que on peut se dire en amont, il est important qu'un individu qui reconnaît que le processus politique s'est formalisé et que désormais, à la suite des élections démocratiques, nous avons un cadre d'expression. Il est donc important que dans ce cadre d'expression, on trouve les possibilités de faire valoir ses propres revendications plutôt que de recourir déjà à des moyens militaires contre son propre État.
Merci François Elika. Deuxième partie de cette émission consacrée au dernier jour de l'ultimatum lancé à Laurent Kunda pour le brassage de ses troupes. Comment concilier les différentes prises de position pour restaurer la paix au Nord Kivu? Envoyez vos réactions et questions à nos invités de ce soir, Moïse Nyarugabo, sénateur RCD, Madame Mouhima Bintou Sabine, députée nationale, élue de Walikale au Nord Kivu, qui est membre de l'AMP, et l'analyste de ce soir, François Elika.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Dernier jour, ce lundi 15 octobre, de l'ultimatum lancé à Laurent Kunda pour le brassage de ses troupes. Comment concilier les différentes prises de position pour restaurer la paix au Nord Kivu? Je vous prie de suivre la réaction du ministre de la Défense, Tshikese Demo, qui accompagne le président de la République à Goma.
L'ultimatum, il nous semble, c'est faire le point. Et tant que nous y sommes, l'évaluation et le point nous renseigne. Dès le moment qu'on a lancé cet ultimatum, voilà qu'un bataillon s'est rendu. C'est aussi l'ultimatum. Pour dire, voilà, nous avançons correctement. C'est le rôle du gouvernement de dire si nous pouvons éviter de rester encore un cent de plus, nous pouvons éviter. Mais ne nous faites pas dire ce que nous ne pensons pas. Permettez à l'endroit de ceux-là qui sont coupables, Kunda, c'est fait. Criminel connu comme tel.
Selon l'agence de presse Reuters, le général Kunda, qui avait auparavant affirmé être prêt à inciter ses hommes à rejoindre les rangs de l'armée nationale, exige maintenant de nouvelles discussions avec le pouvoir sur les conditions d'un accord de réconciliation. Il s'est dit disposé à quitter le pays si certaines conditions étaient satisfaites. Il veut des discussions sur le retour en toute sécurité des populations tutsi du Congo, de la RDC, réfugiées dans des pays voisins comme le Rwanda et le Burundi. Alors, comment concilier ces différentes prises de position pour restaurer la paix au Nord Kivu, Madame Imuima Bintou Sabine, députée nationale PPRD élue de Walikale?
Comme je l'avais dit auparavant, j'avais dit que différentes prises de position pour restaurer la paix au Nord Kivu sont à concilier. Il y a donc l'approche militaire et l'approche négociation. Mais il ne faut pas être surpris quelque part du semblant de contradiction. Car pour le chef de l'État, garant de la sécurité et de tout le monde, ne peut pas négocier quand l'ennemi continue à défier les FRDC. Vous avez suivi vous-même qu'un bataillon a attaqué aujourd'hui, ce matin, à Kalengera. Car ces combats sont de tous les enjeux. L'objectif d'un Kunda est de résister aussi longtemps que possible pour amener Kinshasa à dialoguer. Or, nous ne pouvons pas dialoguer avec un Kunda.
Pourquoi?
Nous ne pouvons pas dialoguer avec lui. Un Kunda, c'est un rebelle, il est déjà condamné. Nous ne pouvons pas dialoguer avec lui. Nous voulons dialoguer avec ceux-là qui sont derrière un Kunda, mais pas avec lui personnellement.
Et vous voyez qui derrière un Kunda?
Ah, derrière un Kunda, il y a beaucoup de forces, hein. Nous préférons négocier avec cette force-là que de négocier avec Kunda.
Et que vous ne pouvez pas identifier maintenant?
Non, je ne le ferai pas maintenant. Mais ils se connaissent, cette force. Nous ne pouvons pas négocier avec cette force-là.
Ne pas négocier avec Laurent Kunda, Moïse Nyarugabo, sénateur RCD, vous pensez que si Kinshasa ne négocie pas, si le gouvernement en fait ne négocie pas avec Laurent Kunda, est-ce que c'est une bonne voie pour restaurer la paix?
Non, pas du tout. Moi, je dis ce que je pense. D'abord, je ne suis pas d'accord avec madame qui dit qu'ils ne peuvent pas dialoguer avec Kunda. Parce qu'il est rebelle, il est déjà condamné. Justement, on ne dialogue pas avec les amis. On doit dialoguer justement avec Kunda parce qu'on n'est pas d'accord. Ceux avec qui on est d'accord, ce n'est pas nécessaire de dialoguer ou de négocier. Et vouloir dialoguer avec ceux qui sont derrière Kunda, je crois que c'est une mauvaise politique. Ça a été fait en 1996, ça a été fait en 1998, mais ça n'a toujours pas porté des fruits. Pourquoi on ne peut pas tirer des leçons de notre histoire la plus récente? On finit toujours par négocier ou dialoguer, mais après avoir eu beaucoup de casse, après avoir perdu beaucoup de vies humaines, alors qu'on pouvait le faire au bon moment. Je suis d'avis que l'option militaire est mauvaise. L'Union européenne s'est prononcée contre l'utilisation des armes pour régler les problèmes qui se posent à l'est du Congo. Le Conseil de sécurité s'est prononcé contre l'utilisation de l'option militaire contre, disons, pour régler le problème qui se pose au Congo. La MONUC, les Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et la MONUC en général, se sont opposés. Ils ont donné des conseils à toute cette chancellerie, donc des conseils à notre gouvernement de ne pas recourir à la force et donc de recourir au dialogue. Et aujourd'hui, que notre gouvernement décide de recourir à la force, pour moi, c'est une mauvaise option. Alors, il faut dialoguer. Dialoguer avec qui? Justement, il faut dialoguer avec Laurent Kunda. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on parle de dialogue, on voit simplement les négociations politiques pour les postes. Je ne crois pas que tout dialogue aboutisse au partage des responsabilités ou de postes. Non, il y a plus important que ça. Je pense que même le fait d'écouter quelqu'un, de le laisser présenter ses problèmes sous la table, de les examiner et de rejeter ce qui peut être rejeté, de considérer ce qui peut être considéré, c'est déjà du dialogue. Le fait d'écouter quelqu'un, mais rejeter simplement, dire qu'il est rebelle, qu'il est condamné, il n'a même pas droit à être entendu, à être écouté, je pense que ce n'est pas une bonne approche et je déconseille ça. Et au gouvernement, et à l'AMP, et à tous ceux qui appellent à la guerre. Parce que quand on appelle à la guerre, il faut s'attendre aux conséquences que la guerre apporte, parce qu'il y a des conséquences qui l'accompagnent absolument. Il ne faut pas que le lendemain, on crie aux morts, au sang qui a coulé, à toutes les autres conséquences. Lorsqu'on appelle à l'option militaire, on appelle à ces morts, on appelle à ces massacres, on appelle à ce sang qui va couler, dans tel camp ou dans tel autre. Ça peut être du côté de Laurent Kunda, ça peut être de tel de FARDC, ça peut être de la population civile, mais lorsqu'on appelle à la guerre, on appelle aussi à toutes les conséquences qui accompagnent la guerre. Donc moi, je demande que s'il faut la fermeté, oui, mais on peut avoir la fermeté aussi dans le dialogue. Et je continue à considérer que les ouvertures que Laurent Kunda a faites dernièrement, en disant qu'il était, il demandait de cesser les feux.
Est-ce que c'est pas parce qu'il est en position de faiblesse?
Je crois que c'est trop tôt de considérer qu'il est en position de faiblesse. Normalement, à mon avis. La guerre vient de faire quelques mois ou quelques semaines. Bon, une fois, les militaires d'un Kunda ont pris les dessus. Si une fois les FARDC ont pris les déçus, c'est trop tôt de considérer qu'ils ont la victoire, qu'ils ont déjà écrasé, et que donc ils n'ont pas besoin, eux, de cesser les feux.
Ouais.
Il a même offert de donner une partie de ses militaires pour le brassage, comme acte de bonne volonté, en attendant qu'on discute des modalités pour les autres. Ouais. Je considère que c'est des questions qu'on devait examiner positivement, les exploiter et peut-être arriver à mettre fin définitivement à la crise.
Donc, pour conclure, pour vous, sénateur Niangawo Moïse, il faut négocier pour éviter d'augmenter le nombre de
cas. Pour moi, la solution, elle est politique. La solution passe par le dialogue, pas par l'option militaire.
Voilà. Alors, François Illica, vous qui êtes analyste, à l'issue d'une réunion avec le chef de l'État, Joseph Kabila, à Goma, le représentant du secrétaire général de l'ONU au Congo, William Lassisswing, qui était à la tête d'une délégation des ambassadeurs de la France, Grande-Bretagne, Belgique, du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et de l'Afrique du Sud, il appelle tous les insurgés à se rendre au brassage sans délai ni préalable, et en même temps il lance un appel aussi aux ex-FARC et Interahamwe à se rendre chez eux, évoquant évidemment les limites des humanitaires à assister les déplacés estimés aujourd'hui à environ 600 000, 700 000 personnes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet appel? Est-ce que ça peut contribuer justement à résoudre la situation sécuritaire? Est-ce que tu auras entendu cet appel?
Je ne pense pas, c'est pas le premier appel qui est lancé. Écoutez, il faut reconnaître ici que nous sommes en face d'une guerre qui a des contours très flous. Parce que il ne faut pas, c'est vrai, je suis d'accord avec l'honorable Moïse Nyarugabu lorsqu'il dit que nous devons prendre en compte les données de l'histoire du pays. Mais nous ne devons pas oublier que ce pays a connu la guerre comme solution chaque fois qu'il a été prouvé que nous étions en face d'une dérive totalitaire qui bloquait totalement la machine des négociations. Et on ne peut pas, stratégiquement parlant, lorsqu'on analyse les données de la guerre, on ne peut pas, les données de la conflictualité sur terrain, on ne peut pas estimer que la négociation est la seule voie. Une négociation peut échouer. Elle peut échouer. Nous connaissons des nations qui ont eu à entamer des négociations, non seulement qui ont pris du temps, mais entre-temps, en prenant du temps, il y a eu pourrissement de la situation sur terrain, et donc les conséquences que vous devriez éviter du fait de la guerre, vous les avez eues du fait d'un retard dans les négociations. Il y a des négociations qui échouent parce que les cahiers de charges que les autres présentent, bon, contient un contour qui ne se justifie pas. Nous sommes exactement dans la situation où on fait comprendre que le cahier de charge a un fondement identitaire, alors que la question n'est pas identitaire. Nous sommes dans une situation d'ordre stratégique. Les différents rapports démontrent très clairement les réseaux de ravitaillement en armes des éléments de Kunda. Et quand vous analysez ces différents réseaux, vous vous rendez très vite compte qu'une guerre qui a un fondement politique ou un fondement identitaire ne peut pas, en principe, disposer de tels moyens. C'est une grande ramification qui fait intervenir plusieurs acteurs avec une valence de motivation très particulière. Donc, nous devons...
Vous pensez que la négociation s'impose, à vous entendre parler?
Non, j'ai dit qu'il faut permettre à la République démocratique du Congo de restructurer son espace au niveau de l'Est à travers une réelle approche militaire.
Donc, il faut y aller, justement.
Mais il faut y aller, parce que, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter un virus de contamination. Imaginez-vous que dans le Bas-Congo, vous soyez en face de notre foyer de tension, on va vous dire, il faut négocier. Mais ce pays a connu un cycle de belligérance qui s'est justifié du fait d'un déficit de légitimité. On estime qu'aujourd'hui, ce déficit de légitimité a pris fin du fait d'un processus électoral qui a été accepté par tout le monde et qui a conduit à la mise en place des institutions démocratiques. Vous trouvez normal qu'un État à peine en train de formaliser sa démocratie, qui est en fait un cadre d'expression pour tout le monde, soit encore dans l'obligation de négocier avec ceux qui, en principe, devraient s'exprimer dans le cadre qui a été accepté par tout le monde. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme celui-ci, qui a connu autant de décennies de léthargie, de déficits du fait que le processus démocratique avait dérapé, que ce pays-là soit obligé de voir la volonté générale déroger par le fait qu'un individu prétend défendre un peuple dont on, qui n'est même pas menacé? Vous trouvez ça normal? Toute option a des conséquences. Mmh. Parce que même ceux qui soutiennent l'option politique ne peuvent pas aujourd'hui nous dire, mathématiquement parlant, combien de temps prendront les négociations. Mmh. On ne peut pas. Vous voulez me dire que dans l'histoire de groupes armés à travers le monde, il n'y a pas de négociations de plus de 20 ans avec des conséquences très particulières? Donc on ne peut pas aujourd'hui estimer que la République démocratique du Congo est le seul État post-conflit. Non, nous avons connu des États post-conflit. La post-conflictualité se consolide à travers une approche consociative qui est au fait qu'il trouve sa justification dans la démocratie. Ouais. Dès l'instant où vous avez la démocratie, vous avez un cadre d'expression populaire, et c'est dans ce cadre-là, recourant aux moyens constitutionnels qui sont garantis, vous devez vous exprimer. Je crois que c'est comme ça qu'il faut, il faut se retrouver en face derrière.
Merci François Elika. On a suivi tout à l'heure Madame Mouima Bintou Sabine, qui est avec nous dans cette émission, députée nationale PPRD élue de Walikale. Pour elle, pas question de négocier avec Laurent Kunda, mais du moins les personnes qui seraient derrière Laurent Kunda. Et pour revenir à vous, François Elika, pour vous, il faut que les FARDC poursuivent l'offensive jusqu'au bout. Moïse Nyarugabo, le sénateur RCD, dit que c'est pas bon de poursuivre, c'est pas le moment de faire la guerre, il faut penser aux conséquences. Faut-il alors impliquer Kigali dans cette crise s'il faut négocier? Madame Mouima Bintou Sabine n'a peut-être pas voulu le dire, mais on sait que les autorités congolaises ont toujours clamé, ont toujours déclaré qu'elles ne sont pas impliquées dans cette situation du Nord Kivu. C'est ainsi que la dernière déclaration vient, elle, du porte-parole de l'armée rwandaise. Il a dit il y a 3 jours pour dire encore une fois que Kigali n'est pas impliqué dans ce qui se passe à l'est du pays. Suivons les détails avec Guy-Roger Nyampala.
Le major Gilles Rutaremara, porte-parole de l'armée rwandaise, a catégoriquement démenti avoir une quelconque présence militaire dans l'est de la RDC le 12 octobre dernier à l'agence France-Presse à Kigali. Selon lui, je cite, c'est une affirmation gratuite d'alléguer qu'il y aurait des éléments de force de défense du Rwanda sur le sol congolais. Les affrontements dans les Kivu sont, poursuit-il, une affaire entre Congolais. Toujours d'après le porte-parole de l'armée rwandaise, le Rwanda est surtout préoccupé par la présence dans l'est de la RDC des milices génocidaires regroupées au sein de forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Fin de citation. Rappelons qu'il y a plus d'un mois, au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, Charles Morigande, ministre rwandais des Affaires étrangères, déclarait que les principaux obstacles à la paix à l'est de la RDC sont les FDLR et les Interahamwe. Il a nié tout soutien à l'ex-général Laurent Laurent Kunda par le gouvernement rwandais. Le phénomène Kunda n'est que la conséquence de la présence des ex-FAR et Interahamwe en RDC, avant d'ajouter que le problème Kunda est une affaire congolo-congolaise.
Voilà, Madame Mouima Bintou Sabine, puisque vous qui êtes députée nationale CPRD, élue de Walikale, vous avez dit qu'il n'est pas question de négocier avec Laurent Kunda. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait impliquer Kigali dans la recherche d'une solution définitive dans le Nord Kivu?
Oui, je voudrais d'abord vous dire que ce que fait le fait de Kunda n'est qu'une manœuvre. Voilà, il veut seulement nous endormir et chercher à nous entrer dedans. Il se prépare plutôt à la poursuite de la guerre. Mais je voudrais vous informer que, à l'initiative du chef de l'État, nous voulons organiser une conférence sur la paix, la sécurité et le développement au Nord Kivu et même au Sud Kivu. Et pendant cette conférence, nous voudrions nous parler face à face avec tous ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait sécurité chez nous. Ceux de l'extérieur comme ceux de l'intérieur, notamment l'Ouganda, notamment le Rwanda est parmi ceux-là. Nous voulons donc inviter tous ces pays-là, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Nous inviterons même des ambassadeurs de certaines ambassades qui doivent être là pour nous écouter et nous suivre. Nous devons arranger cette situation face à face avec tout ce monde-là. Et nous voulons mettre l'accent sur la responsabilité de chacun de ceux-là qui se mêlent dans cette histoire-là. Donc c'est une conférence que nous sommes en train de préparer et je voudrais vous informer que nous, députés du Nord Kivu, nous venons tout à l'heure là de terminer une session de réflexion sur ce projet au centre Nganda, sur la paix. Et les points sont en train d'être finalisés. Et les députés du Nord Kivu cherchent à descendre sur le terrain, à l'intérieur, pour mettre le projet au point. C'est-à-dire, nous avons aussi le souci qu'on mette fin à cette guerre. Parce qu'il y a toute notre population est décimée, beaucoup de femmes violées, des enfants qui se perdent, qui meurent, les maris qui meurent, les hommes qui meurent. Nous voulons mettre fin à cette situation.
Oui.
Et nous croyons que nous allons emboîter le pas du chef de l'État. Et même l'Assemblée nationale, à travers les députés du Nord Kivu, nous avons déjà accepté que nous pouvons organiser une conférence à l'issue de laquelle nous voulons que la guerre prenne fin, parce que nous en avons assez.
Oui. Madame Mouima Bintou Sabine, députée nationale PPRD, élue de Walikale, puisque vous dites que vous avez le président de la République a initié la conférence à laquelle vous pensez, vous espérez inviter même des pays comme l'Ouganda et le Rwanda, mais alors, qu'est-ce que vous dites de ce que des motivations de Laurent Kunda quand il dit qu'il se bat pour défendre, un, sa communauté, donc la communauté tutsi congolaise, et de deux, pour chasser les combattants, les ex-combattants hutu-rwandais, que Kigali qualifie de génocidaire. Qu'est-ce que vous en dites?
Pour ce qui est de sa communauté, nous ne comprenons pas nous autres en ordre de vous. Parce que les tutsi, nous ne marginalisons pas les tutsi. Si vous suivez ici à Kinshasa, au niveau des militaires, nous avons des généraux tutsi, nous avons des colonels tutsi, même au niveau des entreprises, nous avons des ADG tutsi. Mais nous ne sommes pas marginalisés du tout, au contraire, ce sont eux qui occupent presque tous les postes au Congo.
Oui. Donc pour vous, cet argument de Laurent Kunda ne tient
pas. L'argument est non fondé, cet argument-là n'est pas fondé du tout parce que le tutsi bénéficie de beaucoup d'avantages, plus que moi d'ailleurs.
Voilà.
Moi de Walikale, j'ai bénéficié de quelques avantages.
Voilà. Et le deuxième argument, celui des ex-combattants hutu-rwandais.
Les hutu-rwandais, quand ils sont arrivés, ce ne sont pas les Congolais qui les ont appelés, ce ne sont pas les Congolais qui les ont amenés. C'est à cause de l'anarchie qui avait régné au Rwanda que les Interahamwe sont chez nous. Et nous ne voulons pas qu'ils restent chez nous, nous voulons qu'ils rentrent chez eux. Et nous voulons que les partenaires du Rwanda et initie un dialogue inter-rwandais comme ils nous l'ont imposé ici au Congo.
Oui.
On initie aussi ce dialogue au Rwanda afin que le Rwanda soit démocratisé et que les Interahamwe rentrent chez eux.
Oui. Et donc, je répète pour Moïse, le sénateur Moïse Nyarugabo, qui a eu un petit problème de retour avec ses casques et qui n'a pas très bien suivi vos arguments. Premièrement, vous dites que l'argument avancé par Laurent Kunda en rapport avec la défense de sa communauté, communauté tutsi congolaise, pour vous, cet argument ne tient pas. Vous estimez que la communauté a beaucoup plus d'avantages déjà. Et par contre, l'argument concernant les ex-combattants hutu-rwandais que Laurent Kunda dit vouloir pourchasser, et cet argument qui est aussi soutenu par Kigali, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous dites finalement, parce qu'il faut que Moïse Nyarzabo aussi vous suive là-dessus, pour cet argument des combattants ex-hutu-rwandais?
C'est à moi?
Oui, bien sûr, c'est à vous, Madame Mouima Bintou Sabine.
Non, nous voulons que les FDLR et les Interahamwe rentrent au Rwanda. Parce que parmi ceux qui sont sur le terrain, tous ne sont pas génocidaires. Il y a des innocents parmi eux. Pourquoi ces innocents peuvent continuer à souffrir sur la terre congolaise et pourquoi ils peuvent rentrer chez eux et continuer à travailler avec ce régime actuel qui est au Rwanda?
Ouais. Une minute avec Moïse Nyarzabo pour répondre sur ces éléments.
Non, écoutez, je crois que, comme je disais au début, ce n'était pas un procès, mais il y a quelque chose qui m'a toujours étonné. Beaucoup de compatriotes sont prêts à dialoguer avec les Interahamwe et les ex-FAR et les FDLR que de dialoguer avec Laurent Kunda. Même la dame qui, Madame Sabine, elle est plutôt favorable qu'on dialogue avec les Interahamwe. Mais pas question de dialogue avec Laurent Kunda. En disant que le Rwanda doit faire un dialogue inter-rwandais avec les Interahamwe, on est incapable de dialoguer entre nous ici et nous devons donner des leçons aux autres républiques qu'eux dialoguent avec leurs ennemis quand nous, il est impossible de dialoguer avec celui que nous considérons comme notre ennemi. Je dis non. Si nous devons donner des leçons, commençons par notre propre dialogue avec Laurent Kunda, alors nous pouvons dire aux Rwandais, vous aussi faites de même avec vos Interahamwe. Là, je comprendrai. Mais lorsqu'on dit, on ne peut pas dialoguer avec Laurent Kunda, parce qu'il est rebelle, il est condamné, mais on demande au Rwanda de dialoguer avec les Interahamwe, je considère que c'est incohérent. Deuxième élément. Elle vient de parler d'une conférence, évidemment elle est du PPRD, donc elle a beaucoup plus d'informations que nous. J'ai appris qu'il y a une conférence sur la paix, la sécurité et le développement, où on va inviter le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Moi je n'étais pas au courant de ça, donc c'est le pouvoir organisateur, c'est normal qu'ils aient beaucoup plus d'informations que nous. Mais moi je pensais que c'était une conférence où nous les enfants du Kivu nous allons nous parler en nous regardant dans les yeux. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est plutôt une conférence internationale où on va inviter les pays étrangers, où on va discuter de leur implication. Là, je ne comprends pas c'est quelle nature de conférence. Je pensais que c'est une réunion entre les enfants du Kivu pour parler de nos problèmes qui nous opposent.
Oui, pour conclure.
Quoi qu'il en soit, même au sujet de cette conférence, ce sont les députés du Nord Kivu, et je pense que madame faisait partie, qui ont signé un mémorandum pour s'opposer à la table ronde qui était organisée par le gouvernement.
Vous ne comprenez pas que...
Pour réclamer l'option militaire.
Il conclut.
Aujourd'hui, revenir sur la conférence pour la paix, dire qu'on veut la paix alors qu'on a déjà choisi l'option militaire, je crois que c'est aussi des choses qui ne marchent pas ensemble. Ou on fait l'option militaire, on va jusqu'au bout, ou alors on veut faire un dialogue, on va aussi jusqu'au bout et on associe toutes les parties.
Merci, Moïse Nyarzabo.
Il y a un point sur lequel je n'ai pas réagi.
Oui, en quelques secondes.
À une autre occasion.
En quelques secondes, alors... Vous répondez en quelques secondes, si tu veux vous résumer, en quelques secondes.
Non, je disais que je voulais parler de la question de l'implication de Kigali.
Oui, en quelques secondes. Si
oui, moi je me dis que lorsqu'on veut impliquer Kigali, c'est possible. C'est vraiment pas mon affaire. Mais je me dis, pour impliquer Kigali, il faut aussi que nous ayons trouvé quelques éléments à présenter sur l'FDLR. Un simple souhait que nous voulons que les Interahamwe rentrent chez eux, ce n'est pas suffisant, parce qu'ils sont chez nous.
Merci beaucoup, Moïse Nyarzabo. On va prendre les réactions des auditeurs avec Guy Roger Yambala.
Didier Bangunda de Bukavu, au site Kivu, veut connaître quelle sera la réaction du gouvernement congolais au lendemain de l'expiration de l'ultimatum lancé contre Laurent Kunda. Emino de Mbandaka, dans l'Équateur, aimerait que le gouvernement et la MONUC s'inspirent de l'exemple de la Sierra Leone pour éviter toute tergiversation, car lorsque la MONUC, lorsque la mission de l'ONU en Sierra Leone a décidé d'exercer une pression militaire sur la rébellion sierra léonaise, le pays avait renoué avec la paix. Eric Makoma de Goma, dans le Nord Kivu, pense qu'il n'y a pas que Kunda qui entretient la sécurité au Nord Kivu, mais il y a aussi les Interahamwe qui tuent et pillent chaque jour. Denis Moulenga de Kinshasa pense qu'il faut que la délégation conduite par M. Lassi Swing puisse expliquer exactement sa mission sa présence dans le Nord Kivu, alors que la population attend un signal fort du président de la République pour qu'il reste ferme à l'égard du général déchu Laurent Kunda. Enfin, Antoine Batanga Dio de Goma au Nord Kivu estime que la présence des diplomates à Goma vise à contraindre Joseph Kabila à accepter les caprices de Kunda, sans se soucier, estime-t-il, de cette population composée à majorité des cultivateurs qui vient de nouveau de rater sa saison culturelle en cette période de sémence.
Oui, François Nika, si vous pouvez réagir à cette dernière opinion d'Antoine Bakanga Dio de Goma dans le Nord Kivu, qui pense que la présence des diplomates à Goma vise à contraindre le président Joseph Kabila à accepter ce qu'elle lui qualifie de caprice de Nkunda, sans se soucier de cette population composée de cultivateurs. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
J'ai dit au début, je crois qu'il ne fait que confirmer ce que j'ai dit au début, que la présence de ces diplomates issus des pays qui interviennent très activement dans le processus politique chez nous avaient certainement pour motivation d'amener Joseph Kabila à pouvoir renoncer à l'option militaire. Donc ça c'est clair. Je suis d'accord avec lui. Bon, il faut peut-être revenir sur la question, les deux préoccupations rencontrées, soulevées par madame, et puis la question de la conférence.
Je vous en prie. Oui, j'essaie d'être aussi parce qu'il nous reste que 4 minutes. Donc,
juste pour dire que la question militaire à l'Est ne doit pas concerner uniquement Kunda. Il est important aujourd'hui que la République démocratique du Congo recouvre sa capacité en tant qu'instance, en tant qu'État sur toute l'étendue du territoire. Et donc, le moyen doit être actionné pour éliminer tous les groupes armés informels à l'Est. Ça, c'est important. Et à ce niveau, il faut relever qu'au niveau de la résolution du Conseil de sécurité qui fait de la question du désarmement, qui fonde la question du désarmement sur l'approche volontariste, cette approche ne peut pas se justifier. Il est important d'aider ce pays à ne pas sombrer dans une situation d'insécurité pour offrir les possibilités d'émergence à des groupes armés informels. Donc, c'est important. Il n'est pas question, moi j'estime que la question appropriée ici, ce n'est pas l'organisation d'une conférence sur la sécurité. Encore que, bon, je ne sais pas comment l'argumentaire de madame a été construit, mais clairement, il faut reconnaître que si on doit organiser une conférence sur la sécurité et inviter des pays amis ou des pays voisins, ça n'a pas de sens. Quels sont les mécanismes sur le plan formel de la diplomatie qui vont s'actionner? Il est important ici de permettre à la République démocratique du Congo de se recouvrer ou de recouvrer sa souveraineté, sa capacité sur l'ensemble du pays en tant qu'État, et donc d'offrir maintenant de garanties à tous ceux qui veulent s'exprimer à travers de moyens constitutionnellement garantis, et ça existe.
Merci, c'est d'être concis. Didier Bagunda de Bukavu, c'est un autre auditeur qui veut connaître ce que sera la réaction du gouvernement congolais au lendemain de l'expiration de l'ultimatum lancé contre Laurent Kunda. Je rappelle aux auditeurs que cet ultimatum expire aujourd'hui. Votre réponse avec Madame Mouima Bintou Sabine, députée nationale PPRD, lui de Walikale, est-ce que vous avez une idée de ce que le gouvernement fera à l'expiration de cet ultimatum?
Je voudrais tout simplement regretter qu'un Kunda ne respecte même plus lui-même le fait qu'il a initié. C'est lui-même qui l'a réclamé. Et il continue la guerre. Il n'envoie même pas ses militaires au brassage. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que la guerre continue.
Et qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement va faire?
Et comme il veut que la guerre continue, bon, moi personnellement, ça c'est mon idée, moi. Personnellement, moi j'aurais voulu que le chef de l'État continue à recourir à la force. Alors, mais aussi, alors il faut qu'on le fasse parce que Kunda ne veut pas que cette région soit en paix.
Oui.
Kunda veut que les gens continuent à souffrir. Alors autant qu'on cherche à le frapper et qu'on le mette hors d'état de nuire.
Oui. Une autre question de Eric Makoma de Goma dans le Nord Kivu. Il pense qu'il n'y a pas qu'un Kunda qui entretient l'insécurité, mais il y a aussi les Interahamwe qui tuent et qui pillent. Qu'est-ce que vous répondez, Madame Mouima Bintou Sabine?
Moi, je crois que Nkunda, elle est le point culminant de tout ce qui se passe au Nord Kivu. Les Interahamwe, s'ils sont là, c'est à cause de Kagame qui les a pourchassés.
Voilà. Alors, votre réponse à vous, Moïse Nyarugabo, notamment à un autre auditeur, Emino de Mbandaka, à l'Équateur, il aimerait que le gouvernement et la MONUC s'inspirent de l'exemple de la Sierra Leone pour éviter toute tergiversation. Il dit encore que la mission de l'ONU à Sierra Leone a décidé d'exercer une pression militaire sur la rébellion sierra-léonaise
et le pays avait retrouvé la paix. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui pense qu'en fait, le gouvernement doit pousser? En quelques secondes, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission.
Trois petites choses à dire.
Oui, en quelques secondes.
La première, si cette observation est adressée à la MONUC,
oui, vous n'avez que 15 secondes.
Je préfère que ce soit la MONUC qui réagisse. Mais je note que le cessez-le-feu de Nkunda a été rejeté par le gouvernement. L'offre même d'envoyer des troupes au site a été rejetée. Donc, ça ne pouvait pas se réaliser. Mais les groupes d'armées, je note effectivement qu'il y a beaucoup de groupes d'armées et au nord Kivu et au sud Kivu, et ils doivent être poursuivis de la même manière. Enfin, l'air, je considère que c'est la grave question qui nous hante, pour laquelle nous devons trouver des solutions, sans quoi la crise va continuer à nous poursuivre.
Merci beaucoup, Moïse Nyarugabo. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission réalisée par Nadine Foula, préparée par Guy Roger et à la technique Paul Munke.